La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août, en direct de l'Hippodrome de Paris-Longchamp.
Salut les amis, il est 10h20, merci d'être avec nous. Voilà, dernier jour de la REF, Renaissance des entreprises de France, mais on va voir un petit peu ce que ça recouvre effectivement comme idée. On a un temps qui est un petit peu moins clément qu'hier, mais en tout cas, on est très heureux d'être avec vous. Merci pour tous vos commentaires, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, même si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-nous, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà, merci d'être avec nous. On va démarrer cette journée avec Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Gaspard, vous êtes philosophe, essayiste et romancier. Vous êtes président du think tank Génération Libre que vous avez lancé en 2013. Alors, vous allez intervenir sur une thématique qui s'appelle le coût de la liberté. Gaspard, on vous qualifie souvent de philosophe libéral, on a raison ou pas ?
Tout à fait, mais le libéralisme est un vieux mouvement philosophique français qui nous vient du 18e. Et ça fait effectivement 10 ans que je tente de le réhabiliter dans toutes ses dimensions, parce que le libéralisme, ce n'est pas seulement de l'économie, c'est aussi de la sociologie, c'est aussi des questions institutionnelles, c'est aussi bien sûr des questions de société. Je pense que la liberté est un tout, on ne peut pas la segmenter, et que ce n'est pas seulement être libéral, ce n'est pas seulement encourager le business ou les entreprises, c'est beaucoup plus large que ça, c'est défendre une vision de l'homme et un certain rapport de l'État et de l'individu.
Oui, souvent, on a d'ailleurs dans la perception du public, quand on interroge, effectivement, le libéralisme est plutôt pris comme une fonction très autonome de chacun, par la méritocratie peut-être, et qui s'oppose finalement à la prise en charge de la collectivité. Vous savez, cette idée que le faible, finalement, est quelque part soutenu par une collectivité. C'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs dans les oppositions. Mais, et on dit que le libéralisme, finalement, s'inspire d'une politique, si on devait donner un cadre, de droite, vous voyez ? Donc, est-ce que, à votre avis, quand on parle de libéralisme, on a tort de dire que c'est toujours un libéralisme de droite ? Il peut y avoir un libéralisme de gauche.
D'abord, la notion de libéralisme préexiste à la droite et à la gauche, puisque les physiocrates du XVIIIe siècle, qui ont un peu, disons, amorcé la doctrine, vivent dans un monde où il n'y a pas encore de droite et de gauche, puisque ça intervient seulement pendant la Révolution française. Ensuite, tout au long du XIXe siècle, le libéralisme est de gauche. Enfin, en tout cas, Tocqueville, Bastiat siège à gauche contre les conservateurs de l'époque, contre les monarchistes, pour l'état de droit et pour la concurrence aussi. Et déjà à l'époque, d'ailleurs, la droite est contre la concurrence, ce qui aboutira au tarif Méline. Ensuite, le mot, par exemple, aux États-Unis, liberal, ça veut plutôt dire de gauche. Donc, encore une fois, ça transcende vraiment ces clivages. Moi, dans les propositions que je défends, il y a des propositions, disons, sociétales ou institutionnelles qui tombent à gauche, voire à gauche de la gauche. Quand on prend les thèmes, les grands thèmes de Génération Libre, la propriété des données, le revenu universel, la légalisation des drogues, la GPA, ça fait quand même pas trop penser à la droite.
On peut pas franchement penser que c'est à droite, hein, c'est clair.
La notion de nation aussi, en tout cas telle qu'elle est assumée par l'État aujourd'hui, est une notion que le libéralisme quelque part questionne, en disant que ce qui compte c'est la liberté des individus et la souveraineté elle est avant tout individuelle, avant d'être collective. Donc bon, on pourrait faire de longs développements, mais je pense que, premièrement, la droite en France n'est pas libérale et ne l'est plus, en tout cas depuis très longtemps, et que, deuxièmement, le libéralisme lui-même n'est pas intrinsèquement de droite. C'est une philosophie politique complète. Et quand vous dites qu'elle s'oppose au soutien de la collectivité...
C'est la perception du public. Hein.
Oui, bien sûr. Mais...
Quand on les interroge, le libéralisme, c'est l'autonomie.
Oui, c'est l'autonomie.
C'est chacun pour soi.
C'est l'autonomie, mais je pense que précisément... L'État a un rôle à jouer, c'était la philosophie de la Révolution française, pour assurer à l'individu les moyens de son autonomie. Et donc pour le soutenir de manière non paternaliste. L'État doit être neutre dans les valeurs morales qui sont, elles, du ressort de l'individu ou de la société. En revanche, il doit soutenir les gens pour pouvoir faire leurs propres choix. C'est pas vrai que quand on n'a rien, qu'on n'a pas d'éducation, qu'on n'a pas d'argent, on peut faire ses choix. Et vas-y, marche à l'ombre.
C'est clair.
Bon. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'il a toujours fait partie du projet libéral, quand on connaît un peu la philosophie politique, d'instaurer un revenu universel, en disant comment on lutte contre la pauvreté, comment on donne aux gens les moyens financiers de s'en sortir. Eh bien, de la manière la moins paternaliste possible, c'est-à-dire sans faire un système d'allocation conditionnelle, on vous demande ce que vous faites, qui vous êtes, avec qui vous vivez. Vous savez, le RSA aujourd'hui, c'est terrible. C'est une énorme bureaucratie.
Absolument.
Qui décourage les gens et qui fait que vous avez entre 1 et 2 tiers de non-recours à ce qui est pourtant l'allocation la plus basique qui permet simplement de survivre dans une société donnée. Bon, et ben le revenu universel annule tout ça, et c'est quelque chose qui nous vient de Thomas Paine, qui était lockéen, qui est passé par John Stuart Mill, par Hayek, bien sûr, par Friedman avec l'impôt négatif, donc des grands libéraux, on ne peut pas franchement dire que Friedman était socialiste. Et quelque part, on a tellement perdu cette histoire philosophique du libéralisme que maintenant, on a l'impression que le revenu universel était quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu étrange à soutenir pour un libéral, alors que pas du tout, ça fait partie, enfin, c'est hyper classique, moi, ce que je dis là-dessus, et en fait, extrêmement conventionnel quand on connaît un peu la philosophie libérale. Mais je pourrais dire la même chose sur l'éducation, je pourrais dire la même chose sur la santé. Il faut que l'État donne à l'individu les moyens de constituer son autonomie, à la fois en termes de couverture des besoins de base et en termes d'éducation. Mais une fois qu'il a fait tout ça, et il ne le fait pas aujourd'hui, il le fait mal, il le fait de manière conditionnée, une fois qu'il a fait tout ça de manière universelle, et bah, du coup, il laisse chacun responsable de ses propres choix et D'accord. Il arrête d'intervenir aussi, de manière aussi détaillée et intrusive, à la fois dans nos comportements quotidiens et aussi dans les choix économiques du pays.
Alors, ça me permet de faire cette transition. On a interrogé Bruno Le Maire hier, qui disait la chose suivante, je le cite. « Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. L'heure n'est plus à l'arrosage, mais au ciblage. » Alors, je vais vous dire, selon vous, est-ce que le timing est bon alors que le Delta continue de sévir, finalement, dans une certaine mesure? Et est-ce que, finalement, quelque part, nous n'aboutissons pas, voilà, je vais peut-être un peu caricaturer, mais à la fin d'un modèle, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une question qui n'est pas forcément très politiquement correcte, où l'État ne peut pas tout, voilà, tout simplement. À un moment donné, il va falloir s'arrêter.
C'est déjà Jospin qui disait, je crois, que l'État ne peut pas tout. Simplement, je crains que la crise ait, au contraire, incité l'État à en faire de plus en plus et dans de plus en plus de domaines. Vous avez quand même assez peu d'entreprises ou de secteurs ou même d'individus en France qui échappent à un système d'aide, de demande, de redistribution constant. Et je pense encore une fois que l'État, il devrait aider les individus, mais pas les entreprises en elles-mêmes. Et d'ailleurs, ce qu'a montré cette crise, c'est l'incroyable scission qui s'est opérée entre les entreprises qui ont été soutenues, les CDI qui ont pu se mettre en chômage partiel,
bien sûr,
et les indépendants dont je fais partie, qui n'ont à peu près rien eu. Alors, il y a eu des dispositifs d'aide pour les auto-entrepreurs.
Mais, je confirme rien.
J'ai participé à une réunion de la Fédération des auto-entrepreneurs. Je peux vous dire qu'ils ont vraiment du mal à déclencher la moindre aide. Et c'est là, encore une fois, que la question du revenu universel se posait complètement pendant la crise. En disant qu'il faut assurer à chaque individu une espèce de bulle qui lui permet, en cas de crise personnelle ou collective...
Sans conditions de ressources.
Bien sûr, oui, c'est pour ça qu'il s'appelle universel.
Non, mais c'est-à-dire que le plus riche pourrait y prétendre. Alors.
Bien sûr, mais les impôts, c'est un crédit d'impôt négatif, donc les impôts
vont largement
compenser...
Non, mais dans la perception, encore une fois, dans le langage politique,
oui,
vous comprenez que c'est difficile à...
C'est pour ça que c'est universel.
Ok, oui.
Si on dit chacun a droit à la survie, même le riche. Et si du jour au lendemain, il devient très pauvre, ce qui s'est passé pendant cette crise, parce que pendant cette crise, vous aviez des gens qui avaient une vie de... disons d'urbain, parce qu'ils travaillaient dans l'événementiel, par exemple, qui dépensaient tout leur salaire et qu'ils avaient l'impression de faire partie
Exactement.
De la classe aisée et tout ça,
tout
et qui, du jour au lendemain, se retrouvaient sans rien. C'est des gens qui n'étaient pas du tout formés socialement, culturellement, pour aller à Pôle emploi ou pour demander le RSA. Avec un revenu universel, ça serait tombé tout de suite.
C'est clair.
Et ça leur donnait le minimum. Mais d'ailleurs, on s'aperçoit aussi, pendant cette crise où on est resté chez nous, que pour survivre, on n'a pas besoin de grand-chose. Juste pour être en état de stagnation, si je puis dire. Et pour avoir de quoi survivre et commencer à faire des...
Vraiment survivre, oui.
Oui, mais bon, c'est important. Et commencer à faire des projets. Et je vais vous dire, le problème des gens au RSA aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas se projeter parce qu'ils ont peur de le perdre le mois d'après. Et que c'est le système paternaliste actuel qui les transforme en mendiants professionnels. Bien sûr, parler aux gens RSA, ils ont peur de le perdre. Ils ont peur que s'ils commencent une activité qui n'est pas un CDI, et globalement, les gens RSA, ils ne passent jamais directement en CDI, s'ils sous-louent une pièce de leur logement, s'ils commencent à faire des petits bouts d'entrepreneurs, bien sûr qu'ils vont perdre une partie du RSA qui se transforme en RSA activité. Après, il faut le redemander, il faut se justifier auprès de sa conseillère CAF. Tout ça est très compliqué et stressant.
Donc, si je vous comprends bien, finalement, le RSA, il répond exactement à l'objectif contraire qui s'était assigné au départ.
Et le RSA, il fait partie d'un mouvement qui est quand même un mouvement qui est positif en lui-même. Lionel Soleru, qui était un des partisans du revenu universel depuis les années 70.
Absolument, grand commissaire au plan.
Ouais, expliquait que, je ne sais pas d'ailleurs s'il aimait beaucoup le terme de plan, mais enfin en tout cas, il expliquait que quand, dans l'histoire longue, depuis le rapport Stauffaès sous Giscard, en passant par le RMI, le RSA et tutti quanti, et finalement, on y arrive peu à peu. Donc, il s'agit ensuite de terminer un mouvement qui s'engage depuis longtemps. Mais ce n'est pas pour parler de ce sujet en particulier, c'est pour vous dire qu'une fois qu'on a donné que l'État a assuré le socle, il peut se retirer du reste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il assure mal ou peu le socle. Et quand on parle de mesures de ciblage, parce qu'il y a à cibler, l'État n'a pas à choisir quel domaine il va soutenir, quel domaine il ne va pas soutenir, quels sont les domaines d'avenir ou pas d'avenir. Si on considère que l'écologie est un domaine d'avenir, on met une taxe carbone pour inciter les gens à faire des projets écologiques. Mais on ne commence pas à financer.
C'est clair.
Et à choisir depuis Paris ce que fait ce gouvernement comme ils ont tous fait. Et ce gouvernement qui a été élu sur une promesse quand même plus ou moins de libéralisation se met à ressusciter le commissariat au plan. C'est n'importe quoi.
Deux réformes ont été annoncées qui sont franchement plutôt contestées. Réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage. C'est judicieux de l'annoncer ?
Moi, je vais vous dire par exemple ce que je ferais sur la retraite et le chômage. Parce que Génération Libre, on fait des grands plans sur la comète, mais on sort des notes aussi avec des économistes, des juristes. Donc non seulement on a des idées un peu bizarres, mais on les travaille ensuite. Et vous allez voir que ça participe exactement de la logique que je vous ai décrite jusqu'à présent. Moi, ce que je ferais, c'est ce qu'on appelle le compte-temps. Le compte-temps, c'est de dire aujourd'hui, en fait, on peut fusionner chômage et retraite. Tout ça, c'est du temps libre. Pourquoi aujourd'hui on est obligé de travailler 40, 45 ans d'affilée, puis après, boum, on ne fait plus rien. On est d'ailleurs souvent obligé de partir à la retraite, même quand on est en pleine forme et qu'on continue à bosser. Et puis après, on est un peu condamné à la retraite et donc on tire sa rente de tout ce qu'on a cotisé. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, à 35 ans, dire « Moi, j'ai envie de m'arrêter 2-3 ans pour ou faire le tour du monde, ou m'occuper de mes enfants, ou commencer un projet entrepreneurial ou n'importe quoi ?» J'ai pas besoin de me faire virer pour ça, de pointer à Pôle emploi pour justifier ou faire semblant de justifier que je recherche un emploi. Non, je tire sur un schéma qui est assurantiel, donc j'ai pas à me justifier. Et ben, je tire les points de mon compte temps. D'accord ? Donc ça sera un système à points, un peu comme ce qu'on voulait faire sur la retraite, mais en fait beaucoup plus général, où vous cotisez, vous prenez des points, et les points vous les dépensez quand vous voulez dans votre vie. Si vous les dépensez de 40 à 45, et puis ensuite reprendre, et puis si vous voulez recommencer à bosser à 65 ans, et puis à 72 ans, vous arrêtez, vous retirez les points. C'est juste une rente, une assurance temps libre, si vous voulez. Avec, évidemment, pour que tout le monde n'ait pas tout dépensé quand on arrive à 65 ans, vous pouvez imaginer un certain nombre de seuils, de quotas, qui fait que vous êtes quand même obligé de cotiser un petit montant de tout ça. Ce qui allège énormément, d'ailleurs, les charges sur les entreprises, parce que ça redonne, en fait, du salaire complet aux gens qui, ensuite, vont volontairement acheter leurs points et qui achèteront d'autant plus volontiers leurs points qu'aujourd'hui, on dit « Ouais, mais la retraite, c'est dans longtemps, je m'en fous. » Alors que si la retraite, c'est en fait dans 7 ans, quand on a décidé de partir en voyage, on se dit « Ah bah tiens, ouais, je vais commencer à accumuler des points maintenant parce qu'ensuite, je vais pouvoir les dépenser pendant 2-3 ans. » Et donc avec ça, dans mon système, vous éliminez le système des CAF, le système de Pôle emploi, c'est-à-dire tous ces systèmes hyper intrusifs où on vous pose des questions, vous ne savez pas ce que vous avez à voir, vous êtes à la merci de gens qui, au fond, de manière assez arbitraire, vous donnent telle ou telle somme sans que vous y compreniez grand-chose. Et bien là, c'est un système qui est universel, qui ne repose plus sur un espèce d'âge fixé
et
de départ à la retraite.
Plus, ça ne reposerait plus non plus sur la répartition, du coup. Sur la solidarité intergénérationnelle, par exemple. Modèle.
Si, vous pouvez tout à fait faire un modèle à points qui repose sur la répartition. Ça, c'est une question de choix. Vous pouvez aussi le faire sur la capitalisation,
d'accord,
si c'est l'État qui investit.
Vous ne dites pas dans votre concept, on supprime la répartition, donc la solidarité intergénérationnelle.
Mais non, au contraire.
Donc, vous n'axez pas uniquement sur la capitalisation.
Puisque la valeur du point va dépendre de la croissance et de la démographie.
D'accord.
Donc cette valeur du point, elle va être déterminée de manière collective. Après, si vous voulez par ailleurs avoir un système de capitalisation qui permet aux gens de se constituer notre retraite.
Pour compléter, bien sûr.
Mais ça existe déjà. Mais ça vous pourriez le faire. Mais vous voyez bien ma logique, elle est d'universaliser les droits et en même temps de les individualiser. C'est d'ailleurs à peu près ce que disait Macron pendant sa campagne, mais il ne s'est pas donné les moyens de le faire. Universalisation, c'est-à-dire que tout le monde a la même chose, la valeur du point, c'est la même chose pour tout le monde et tout. Et individualisation, parce que chacun est très libre de répartir, en l'occurrence, de répartir son temps libre tout au long de sa vie, plutôt que d'être contraint dans un schéma collectif où vous devez bosser comme une brute. Et parfois, perdre vos meilleures années, quelque part, vous pourriez faire autre chose ou tenter une autre aventure. Et puis ensuite, boum, vous n'avez plus rien. Tout ça ne correspond plus à l'évolution de la société. La retraite, elle avait été mise en place quand on avait des problèmes de pauvreté des vieux travailleurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les retraités, comme vous le savez, ont désormais un niveau de revenu, je ne parle même pas du capital, qui dépasse celui des actifs.
Exactement.
On est dans une autre société.
Oui, mais ça, c'est lié effectivement aux belles démographies qu'on a connues après la guerre, effectivement, qui ont permis à ceux qui viennent à la retraite d'avoir...
Il y a plein de choses, mais ça veut dire que la vieillesse ne doit plus être considérée comme une espèce de stade terminal où on doit donner une petite rente aux gens pour leur permettre d'aller jusqu'à la mort tranquillement, parce que c'est comme ça que c'est conçu. Non, mais c'est comme ça que c'est conçu.
Ils attendent la mort.
Mais ça doit être une gestion personnalisée du temps libre. Et c'est là que c'est individualisé. C'est que chacun va faire ses choix en fonction de ses propres modes de vie, de ses propres valeurs. Et puis s'il y en a qui veulent bosser 45 ans et avoir leur retraite après, ils pourront toujours. On n'enlève de droit à personne.
Gaspard, dernière question. Fin du confinement, bis repetita, une euphorie qui règne, très franchement que je ne partage pas complètement, hein, bien évident. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas quelque chose du style l'arbre qui cache la forêt, avec une espèce de résilience, effectivement, où tout le monde est heureux de se retrouver, mais en même temps, quelque chose qui est bien plus profond? Est-ce que vous ressentez, vous, de votre point de vue, vous qui êtes un observateur aussi de la vie publique et vous réfléchissez sur cette question, sur ne vit-on pas finalement quelque part une transformation quasiment anthropologique des modes de vie, des modes d'usage? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est finalement assez stressant, puisque toute rupture est stressante? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce qui est en train de se produire, à l'aune finalement des régimes en Europe qui se bouleversent beaucoup, de ce qui vient de se passer en Afghanistan, d'un bouleversement politique, de cette multipolarité dont on ne sait plus réellement quels sont les enjeux, est-ce que tout ça, le philosophe que vous êtes, vous l'interprétez comme un changement presque... Alors, je ne veux pas prendre les grands mots civilisationnels, mais je me dis quelque chose finalement qui est sous-jacent, qui est bien plus profond que ce qui nous arrive.
Il y a beaucoup de questions dans votre question.
Oui, enfin, je vous livre plus une réflexion.
Moi, je suis absolument pas euphorique parce que le point commun entre le pass sanitaire et ce qui se passe en Afghanistan, c'est le renoncement à défendre l'idée de liberté.
Le renoncement, je suis bien d'accord avec
l'Occident,
vous.
C'est la fin de la fin de l'histoire, et on estime que c'est plus notre rôle, nation développée, libérale, fondée sur un état de droit, que d'aider les autres pays, et surtout les autres, je dirais pas les autres pays, mais les individus qui pâtissent d'un autre régime, de transformer leurs institutions. Et finalement, on s'en va, on s'en lave les mains. Et le seul discours qu'on a en France, c'est attention aux vagues migratoires, ce qui est vraiment pathétique. Et indigne de gens qui prétendent gouverner le pays. Et c'est pareil sur le pass sanitaire. On considère que montrer, comme on a dû le faire pour rentrer ici à la REF, que montrer un code barre, qu'établir des sas dans l'espace public, que mettre fin à la liberté de circulation, pousser à la marginalité 10, 15 ou 20% de nos concitoyens, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un petit geste de montrer le pass sanitaire. Pour moi, c'est extrêmement grave. Je dis pas que... Et je pense que d'abord...
Mais vous n'êtes pas anti-pass, vous.
Complètement anti-pass, j'étais au manif, moi. Liberté, liberté. Pour une fois qu'il y a des manifs pour la liberté...
Vous n'avez pas de pass sanitaire, non, vous.
J'ai bien dû faire des compromis en avoir un. Je suis très pour la vaccination, naturellement. Mais je pense que...
Ah, mais c'est intéressant ce que vous dites.
Pour rechercher la finalité...
Anti-pass, pas anti-vaccination, on est d'accord.
Mais franchement, comme la plupart des gens que...
Parce que dans la lecture aujourd'hui, c'est limite, hein, quand même.
Mais c'est le problème de la... Alors, je n'avais pas envie d'entrer dans ce débat pénible, mais c'est le problème de ce débat hyper caricaturé. Et si vous voulez, je pense que pour atteindre la finalité tout à fait louable de la vaccination collective... C'est le moyen le plus immonde qu'on a trouvé, puisqu'il transforme la moitié de la population en flic de l'autre. Et que vous demandez... Vous demandez à des serveurs, à des ouvreurs de cinéma, à des professionnels, à des patrons, des professionnels de toute nature dont ce n'est pas le job, d'assurer l'ordre public. Si on considère que ça fait partie de l'ordre public d'être vacciné, c'est aux flics de vérifier. Ce n'est pas à la population civile d'être transformée en surveillant en général les uns des autres.
Attendez, je comprends l'idée, mais comment on fait alors à ce moment-là pour arriver à... Quand on voit les rebonds épidémiques, etc., il faudra bien trouver une solution.
D'abord, à partir du moment où le vaccin est disponible, gratuit et efficace contre les formes graves, moi, je tiens à dire, j'ai été vacciné, j'ai eu mes doubles doses, j'étais ravi, j'ai eu le virus après, le variant Delta, à Londres, fin juin, j'étais contagieux, pourtant j'étais vacciné, j'aurais pu aller en boîte avec mon passe sanitaire. D'accord. Deuxièmement, à partir du moment où le vaccin, comme je disais, est universel, gratuit et efficace contre les formes graves, du coup, ce n'est plus tellement une question de santé publique, c'est une question de responsabilité individuelle, parce que tous ceux qui ont voulu être protégés ont pu l'être. Et ensuite, ça peut demander un travail de conviction, de pédagogie, qui est plus difficile mais plus intéressant à faire pour l'État que d'user la force brute. Mais pour revenir, je ne voulais pas m'embarquer dans ce débat, pour revenir sur la question des libertés, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question de proportionnalité de toute façon. Et il faut dire, est-ce que le but recherché justifie une mesure telle que le pass? Et beaucoup de gens vous disent aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est juste un petit geste à faire, c'est rien du tout, c'est vraiment un truc, alors là, c'est vraiment un truc de bobo, c'est un truc de privilégié, etc. Et moi, je pense que le dommage causé sociétalement, anthropologiquement, puisque vous employez ce terme, il est énorme. C'est-à-dire que de devoir justifier de son état de santé, de son identité quand on traverse l'espace public, que de penser que la cité, l'agora, c'est l'endroit où, où tout le monde peut circuler librement et prendre la parole. Et aujourd'hui, c'est le bar, c'est ça. Introduire ces sas, c'est très grave. Et ça nous mène tout droit à quoi ? À ce que proposaient un certain nombre de candidats régionaux qui ont malheureusement été élus, c'est-à-dire la reconnaissance faciale dans les transports, au nom là de la sécurité. Et au nom de la santé ou de la sécurité, vous aurez toujours, et vous ouvrez une porte incroyable que la technologie permet aujourd'hui.
Très juste. Très juste, très
où juste. Vous allez pouvoir dire, bah oui, mais finalement, les gens qui ont été condamnés à une peine de prison, est-ce bien normal qu'on leur donne accès à tel ou tel lieu public ? Ben, on va pouvoir le contrôler, on contrôlera avec un pass votre casier judiciaire en direct. Ou bien les fraudeurs fiscaux, est-ce bien normal qu'on leur donne accès à des installations collectives que le reste de la communauté a financées par l'impôt ? Ah non, peut-être pas. Alors tiens, il y aura un pass fiscal où les fraudeurs ne pourront pas rentrer dans les stades de foot qui ont été financés par les municipalités.
Vous n'exagérez pas un peu, là ?
Ben, ouais, mais il y a six mois, tout le monde disait, le ministre de la Santé disait, il n'y aura jamais de passe en France, hein. On ne fera pas ça. Et puis ceux qui disaient, oui, mais le cheval de Troie, la porte ouverte et tout ça, on ricanait.
Non, c'est là, c'est Big Brother, là, c'est vraiment le truc.
On voit que ça va très, très vite. On voit que ça va très, très vite. Et moi, je ne prends pas ça à la légère. Et je pense que de toute façon, cette mesure, elle est disproportionnée, quoi qu'on pense du reste du raisonnement que j'ai fait sur le pass ou pas. Et que simplement, ce que je voulais dire par rapport, puisque vous m'avez fait faire le lien entre l'Afghanistan, le pass et tout ça, dire que la question de la liberté, elle n'est pas anecdotique.
Ouais, je comprends.
Et qu'aujourd'hui, on la prend comme quelque chose d'anecdotique. Et que les gens que je rencontre, soit moi j'ai une deuxième vie dans le Calvados, les gens dans le Calvados, ils sont tous anti-pass. Hein. La plupart sont vaccinés, mais ils sont tous anti-pass. Les gens avec qui j'étais à la manif, là, moi j'étais plutôt, vous savez, des manifs de droite et des manifs de gauche. Alors moi je me suis dit, bon, je vais quand même plutôt prendre la manif de gauche. Donc j'étais avec les types de lutte ouvrière avec qui je ne partage pas tout. Mais entendre des gens qui disent la liberté de circuler, c'est important, la liberté d'être anonyme dans l'espace public, c'est important, et ben ça fait du bien. Et je trouve que l'élite parisienne, qui est toute pour le pass, parce que ça permet de reprendre le business as usual, et ben elle a un peu oublié de se questionner sur la valeur des libertés individuelles. Et donc, cet effacement de cette question, bien souligné par des gens comme François Sureau, par exemple, je ne suis pas le seul taré à en parler, et pour moi très problématique. Les réactions au pass, les manifestations sont très encourageantes parce que ça prouve que au fond les gens ils gardent ce réflexe, ce réflexe et cette dignité quelque part, quoi. Après évidemment il y a tous les débordements mais bon, il y a un truc fondamental que je trouve intéressant. Et je pense que l'enjeu, ça va être intéressant que l'enjeu, évidemment,
non, mais
il y a des tarés partout.
Non, mais des aboutis. Ouais.
Mais que l'enjeu de la prochaine présidentielle, ça va être intéressant parce que ça va moins être sur l'économie, puisque grâce à la Banque centrale, c'est plus une question.
Et plus sur la question de la liberté.
Et plus sur les questions des libertés qui n'étaient pas apparues dans un débat politique depuis longtemps.
C'est clair.
Et qui va permettre de ressusciter un peu le type de raisonnement ou de terme que j'essaye de mettre en lumière.
Merci en tout cas beaucoup d'être passé par le plateau de Radio Immo et de Territoria. Je vous invite, Gaspard, je me permettrai de vous solliciter à nouveau parce que c'est un vrai plaisir de vous entendre. Alors, je ne suis pas d'accord sur tout et je déplore de ne pas avoir encore suffisamment de temps pour discuter avec vous, mais je pense que ce n'est que partie remise. Merci Gaspard Koenig. Je rappelle que vous êtes philosophe, essayiste, romancier et président du think tank Génération Libre. Merci à vous.
Merci.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.